Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle. C'est donc aujourd'hui le 11e et dernier opus de notre chronique Vive la Commune. Nous nous proposons d'évoquer les suites de la Commune, ou plutôt l'avenir de la Commune à notre époque. Et pour aborder cette thématique, nous nous appuyons sur les travaux de Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre. Chronologiquement, nous aborderons les points suivants. Premièrement, faut-il dépasser la Commune ou, au contraire, s'appuyer sur la Commune pour dépasser nos impasses actuelles? Deuxièmement, du municipalisme au communalisme. Troisièmement, quel communalisme contemporain? Première partie donc, faut-il dépasser la Commune ou au contraire s'appuyer sur la Commune pour dépasser nos impasses actuelles? Ce questionnement prend appui sur le fait que tout au long du XXe siècle, la Commune de Paris n'a jamais cessé d'être célébrée, mais que dans le même temps, il s'agissait de regarder ses faiblesses pour la dépasser. Deux exemples pour mieux nous faire comprendre. Premier exemple, la tradition révolutionnaire marxiste-léniniste.
Pour les bolcheviks, il avait manqué à la Commune un parti révolutionnaire d'avant-garde bien discipliné. Il faut se rappeler le jugement de Lénine en 1905. Je cite « Plus la Commune de Paris nous est chère, moins nous pouvons nous référer à elle sans analyser ses fautes et ses conditions particulières. » Sous ce nom est entré dans l'histoire un mouvement ouvrier qui n'a pas pu et n'a pas su résoudre les tâches qui lui incombaient. C'était un gouvernement comme le nôtre ne doit pas être.
Deuxième exemple, la tradition révolutionnaire anarchiste.
Les anarchistes avaient quant à eux contesté l'ambiguïté du rapport de la Commune de Paris à l'État. En 1880, au congrès de la Fédération jurassienne à La Chaux-de-Fonds, le congrès adopta la résolution suivante, je cite « Les idées émises sur la Commune peuvent laisser supposer qu'il s'agit de substituer à la forme actuelle de l'État une forme plus restreinte qui serait la Commune. Nous voulons la disparition de toute forme étatiste, générale ou restreinte, et la Commune n'est pour nous que l'expression synthétique de la forme organique des libres groupements humains. »
Une question se pose alors. En voulant dépasser la Commune et ses soi-disant faiblesses, est-ce qu'on ne loupe pas l'apport essentiel du mouvement du 18 mars 71, ce que Gustave Lefrançais a appelé, dès 1874, le communalisme? Quelques mots concernant Gustave Lefrançais.
Quand débute la Commune de Paris, cet instituteur angevin devenu journaliste d'opposition a déjà une solide expérience de révolutionnaire et de proscrit. À 22 ans, habité par la légende de 1793, il a pris part à la révolution de février 1848. La trahison de la classe ouvrière par la Deuxième République et les massacres de juin l'ont écœuré et fait basculer dans un camp plus radical, celui du socialisme. Un socialisme fondé sur l'association ouvrière, mais pas exactement proudhonien, car ouvert au féminisme. Il a collaboré, notamment avec Jeanne de Roin et Pauline Roland, à un programme d'éducation novateur qui, publié en 1849, lui a valu révocation. Exilé pendant 2 ans à Londres après le coup d'État de Bonaparte, il est ensuite revenu en France, où il a vécu de divers métiers. L'autorisation des réunions publiques en 1868 l'a révélé orateur, bientôt un des plus écoutés sur la place parisienne, professant des idées sociales assez analogues à celles de Bakounine. Collectivisation des moyens de production, suppression de l'héritage, rejet du mariage, union libre, etc. Après la chute de l'Empire, il a été un des animateurs du comité central républicain des 20 arrondissements, impulsé par l'AIT, prônant la guerre populaire et dénonçant la pusillanimité du gouvernement provisoire. Partie prenante de la tentative insurrectionnelle du 31 octobre 1870, il a de nouveau connu la prison. C'est donc un personnage assez connu qui, le 28 mars 1871, est élu à la Commune par le 4e arrondissement. Membre de la commission du travail et des échanges, puis de celle des finances, il prône en vain la prise de contrôle de la Banque de France. La semaine sanglante le voit sur les barricades de la Bastille, puis il se réfugie en Suisse. Il mourra le 16 mai 1901, en plein 30e anniversaire de la Commune. Des milliers de personnes accompagneront son cercueil jusqu'à la crémation au Père-Lachaise. Eugène Potier lui dédia son célèbre hymne révolutionnaire, l'International.
Gustave Lefrançais a donc écrit « Étude sur le mouvement communaliste à Paris » en 1871, extrait.
Le mouvement communaliste avait pour but de faire disparaître la notion d'autorité et de gouvernement pour y substituer celle du droit et de la souveraineté directe et inaliénable des citoyens. Le mouvement communaliste devait avoir pour effet de restituer aux citoyens la surveillance et la sauvegarde directe de la sécurité publique. Il ne suffit pas d'affirmer l'autonomie. Il faut encore savoir à quelles conditions elle se peut réaliser. Pour devenir une vérité, pour passer de l'abstraction à l'état de fait, deux suppressions lui sont indispensables. La suppression du gouvernement, du pouvoir, dans l'ordre politique, celle du salariat, dans l'ordre économique. Or, cette double suppression ne se peut accomplir que par le triomphe de l'idée communaliste, en qui s'est comme incarnée la révolution sociale, la seule légitime, la seule qui nous intéresse. Toute la portée du mouvement révolutionnaire, on ne saurait trop le répéter, se résume dans cette affirmation d'une lumineuse simplicité. La société est faite par et pour l'individu, et non l'individu pour la société. Du jour où cette vérité a été acclamée, c'en a été fait de la raison d'État, dont s'abritaient toutes les iniquités sociales. La commune est la base de tout État politique, comme la famille est l'embryon des sociétés. Elle doit être autonome, c'est-à-dire se gouverner et s'administrer elle-même, suivant son génie particulier, ses traditions, ses besoins, exister comme personne morale, conservant dans le groupe politique national et spécial son entière liberté, son caractère propre, sa souveraineté complète, comme l'individu au milieu de la cité.
Ainsi, Gustave Lefrançais définit le communalisme par ce qui en constitue pour lui les traits principaux, la double suppression, celle du gouvernement, du pouvoir, dans l'ordre politique, celle du salariat, dans l'ordre économique. L'action gouvernementale devait être remplacée par la participation directe de tous les intéressés dans la gestion de la chose publique. La fédération des groupes travailleurs des villes et des campagnes devait élaborer les pactes d'association dans la fédération générale composée de ces divers groupes. L'importance de l'expérience communarde vient du fait qu'elle a tenté de remettre en cause à la fois le capitalisme et l'État. Le gouvernement national et l'administration centrale ont fui à Versailles. La Commune a fait la démonstration de la capacité du peuple de Paris à se donner un gouvernement municipal et à organiser la vie économique et sociale de la capitale pendant 2 mois et demi. Une spécificité de la Commune de 1871, c'est d'avoir entrevu, sans avoir vraiment pu la réaliser, la combinaison de la Commune démocratique et de la Commune sociale, celle-ci ayant été préparée par le grand mouvement émancipateur de l'association ouvrière.
Des membres de la minorité de l'Assemblée communale, membres ou proches de l'Association internationale des travailleurs, donnaient à la Commune son double caractère démocratique et social. Côté démocratique, les comités de vigilance des 20 arrondissements nés en septembre 1870 avaient marqué le retour de la démocratie sectionnaire. Côté social, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés avait défini un vaste projet de réorganisation du travail autour d'associations productives fédérées de travailleuses et de travailleurs. L'objectif était celui d'une fédération locale et internationale des sections de métiers pour faciliter l'échange des produits et centralisant les intérêts internationaux des producteurs. En novembre 1870, Jules Alix avait déclaré « Nous l'aurons donc, notre commune, notre grande commune démocratique et sociale », en référence à l'idéal 48art de la République démocratique et sociale. Ce que voulait une frange du mouvement communard ne correspond ni au schéma marxiste-léniniste du dépérissement de l'État, qui suppose illusoirement que l'État disparaîtrait de lui-même lorsque son utilisation pour contenir les ennemis n'a plus d'objet, ni au schéma anarchiste de l'abolition de l'État, qui suppose que la liberté de la société découle de la suppression de toute autorité politique. Mais ce qu'il défendait, c'était l'auto-institution démocratique du pouvoir politique et économique par la formation d'assemblées populaires locales et par la fédération des associations ouvrières.
Pour autant, le communalisme de Gustave Lefrançais devait finalement tomber en déshérence au sein de la gauche du XXe siècle. Deuxième partie de notre émission, du municipalisme au communalisme. Du municipalisme au communalisme, c'est le chemin parcouru par Murray Bookchin. Dans un premier temps, le concept que Murray Bookchin met surtout en avant est celui de municipalisme libertaire.
Le municipalisme libertaire insiste avant tout sur l'émergence d'assemblées populaires de démocratie directe au cours des processus révolutionnaires. Il s'agit alors de s'emparer de municipalités pour en faire des contre-institutions face à l'État-nation. En restituant entièrement le pouvoir aux citoyennes et citoyens dans le cadre de ces assemblées populaires. Sur les plans économiques, le municipalisme libertaire de Bookchin annonce l'idée d'une municipalisation de l'économie, c'est-à-dire une municipalisation de toutes les entreprises converties en entreprises publiques de la commune. Ainsi, les moyens de production sont sous le contrôle de la commune. En généralisant, le municipalisme libertaire de Murray Bookchin amène à terme une confédération de communes libres qui se substitue aux États capitalistes.
Murray Bookchin est né en 1921 et mort en 2006. À partir de la fin des années 90, il se réfère au communalisme et mentionne Gustave Lefrançais. Il y a en effet une spécificité de la commune de 1871, c'est d'avoir entrevu, sans avoir vraiment pu la réaliser, l'articulation de la commune démocratique et de la commune sociale. Et on peut alors définir le communalisme par le doublé de la commune démocratique et de la commune sociale. On a alors la possibilité de l'émancipation intégrale, l'émancipation politique par la commune démocratique, l'émancipation sociale par l'association du travail et l'émancipation de l'humanité par l'institution de l'égalité des femmes et des hommes. Et nous terminons cette émission en abordant ce que pourrait être un communalisme contemporain. Notons tout d'abord, en préalable, que la référence à la commune de 1871 refait surface dans les mouvements contemporains. Voici ce qu'en dit, par exemple, Pierre Sauvêtre.
La référence à la commune de 1871 a fait un retour important dans les mouvements sociaux à partir des années 2000. On pourrait citer, parmi les mouvements qui ont fait référence explicitement à la commune de 1871, la commune de Oaxaca, un mouvement de grève et d'occupation au Mexique en 2006. La commune du Rojava, c'est-à-dire le mouvement kurde de mise en place d'un confédéralisme démocratique au nord-est de la Syrie. Puis des mouvements des places, comme la commune de Gezi en 2013 en Turquie ou en France, Nuit debout en 2016. Mais aussi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à partir de 2015, ou encore le mouvement étudiant de la Commune libre de Tolbiac en 2018. La commune de 1871 a aussi été une référence pour le mouvement des Gilets jaunes, avec les rencontres de la commune des communes organisées par les Gilets jaunes de Commercy, ou encore pour des mouvements néo-municipalistes. Enfin, des collectifs à la frontière des savoirs et de la politique, comme le groupe sud-américain Comuna, formé à la fin des années 1990 pour construire une alternative face au néolibéralisme, mais aussi l'Institut d'écologie sociale et du communalisme, Faire commune, ou les communaux, se réclame aussi, entre autres, de la Commune de 1871. Le fait fondamental qui explique pourquoi la Commune refait surface, c'est d'abord le besoin d'une alternative révolutionnaire au capitalisme néolibéral. Le mythe datant du début des années 1990 de l'alliance bienfaisante entre le capitalisme et la démocratie a fait long feu. Et le capitalisme néolibéral montre quotidiennement un visage toujours plus brutal et antidémocratique. La définition d'un nouvel horizon révolutionnaire devient donc une urgence, accrue par une crise écologique sans précédent qui est elle-même le résultat de la domination capitaliste. Or, le communisme marxiste est définitivement mort avec l'effondrement de l'Union soviétique, si bien que la Commune de Paris, qui n'a pas été compromise par cette histoire, vient se substituer à lui dans l'imaginaire révolutionnaire. De ce jeu de substitution de la Commune au communisme comme horizon révolutionnaire, le Chiapas et le Rojava, qui sont deux expériences démocratiques de résistance profonde au capitalisme, sont d'autant plus une preuve concrète qu'elles ont été construites initialement dans un cadre marxiste-léniniste, avec l'objectif de mettre en place un État-nation indépendant pour des peuples opprimés, avant de se convertir à une vision communalisme. Autrement dit, les deux expériences qui sont le plus en rupture avec la norme capitaliste ont pris une forme communaliste. La Commune de 1871 peut d'ailleurs être parfois une référence indirecte. On se réfère au Rojava, donc au communalisme de Bouchine, et donc à la Commune de 1871. Si la Commune revient dans les mouvements contemporains, c'est aussi en raison de ce qui est analysé comme des similitudes formelles entre ces expériences et la Commune de Paris, qui tiennent surtout à la dimension de « commune libre », c'est-à-dire à la mise en suspension pour un temps et une durée déterminée de la contrainte étatique et capitaliste sur les rapports sociaux, et la capacité des mouvements à s'auto-organiser, la vie économique et sociale, suivant des relations sociales qui ne reposent plus sur la domination et l'exploitation.
Pour autant, le communalisme est aujourd'hui une idée au travail et une pratique encore largement à construire, dans le sens de l'organisation de la révolution sociale par l'institution populaire de l'autogouvernement politique et de l'auto-organisation économique. Dans cette perspective, Pierre Sauvêtre estime que dans la période récente, le mouvement des communs, d'un côté, et le mouvement des places ou des gilets jaunes, de l'autre, sont complémentaires concernant ses aspects économiques et ses aspects politiques. Extrait.
Un communalisme s'inspirant de la Commune de 1871 peut se définir davantage comme le processus de double auto-institution du pouvoir économique et du pouvoir politique en commun. La forme concrète qu'il pourrait prendre est celle d'un mouvement contre-institutionnel organisé, de construction de contre-institutions socio-économiques et politiques servant à la fois de forme de socialisation de la vie quotidienne et de contestation du pouvoir officiel suivant l'horizon de la formation d'un pouvoir parallèle hétérogène aux institutions étatiques et capitalistes existantes. Si l'on s'appuie sur les mouvements de la dernière décennie, le mouvement des communs incarne ces contre-institutions socio-économiques, tandis que les mouvements d'occupation des places et de formation d'assemblées populaires locales, dont notamment le mouvement des Gilets jaunes, incarnent les contre-institutions politiques. Un mouvement communaliste ne pourrait prétendre se substituer aux institutions dominantes que s'il parvient à articuler la commune politique et la commune sociale. Il signifierait la fédération locale des communs par l'Assemblée populaire locale de résistance, la commune, dans ce qu'on pourrait appeler une commune sociopolitique et la fédération des communes sociopolitiques. Pour préciser cette idée, les communs, qu'on peut définir comme des lieux auto-institués d'activation d'usages partagés fonctionnant sur la base de l'auto-organisation et de l'auto-gouvernement, Les communs, donc, tels qu'ils s'institutionnalisent aujourd'hui, ne sont pas des communautés refermées sur elles-mêmes, mais des formes auto-organisées ouvertes sur la société, des communs sociaux. Il est essentiel de reconnaître la double dimension de chaque commun. La dimension interne, où le commun désigne la coparticipation à l'activité, et la dimension externe, où le commun renvoie au droit d'usage de tous ceux qui font partie de la société d'inscription du commun, laquelle excède la communauté des fournisseurs du bien ou du service et peut correspondre à la commune, au sens de l'Assemblée populaire locale de résistance. Alors que chaque commun conserve l'autonomie de son fonctionnement, il revient à la commune de tous les habitants, dont la plupart, sinon tous, sont des contributeurs des communs, d'instituer politiquement l'association des communs entre eux, en mettant en place les règles de la réciprocité entre la contribution à un commun et un ensemble de droits d'usage sur les autres communs de la fédération. De la même façon, les rapports entre les communes de la fédération, de la commune des communes, doivent eux aussi être organisés par la coparticipation à une sphère commune, sous cette forme de la réciprocité de la contribution et du droit d'usage, et non de contrat d'échange.
Voilà, cette 11e émission conclut donc notre chronique « Vive la Commune » à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette chronique sur notre site internet micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles chroniques.